Biana, tu calamuke. Biana, tu vunduke, tu chemame, tu vongolene, ma. Biana, tu lamuke. Bajo, nabana muke. Chebote, tu vunduke, avenir, amuke, ni tu nishi. Biana, tu lamuke. Biana, tu calamuke. Biana, tu vunduke, tu chemame, tu vongolene, ma. Biana, tu lamuke. Bajo, nabana muke. Chebote, tu vunduke, avenir, amuke, ni tu nishi. Nanya risema zema politiki ni paka ya bantu bakubwa. Nanya risema ni paka bonjo baku deside piyoti. Nanya risema politiki ni paka ya bantu mamankochi. Sheba pobre bantu mapolo ya tozu kusema gindu. Beguna uwa mukini na rezonju tukuna lenga sana. Beguna pie mukini meshie tuku paka na lewa bombe. Beguna ujisha mukini tune babike mikono. Beguna ujisha mari shebi ya natupatie mukindu. Beja kutuma bato toa boku mabulaya. Shetu kuna komani ya mukini njo bako batu dirishe. Beguna vima na mankochi na tuba malaya. Shetu riba chakula bene tutoloshe ya maya mbula. Tula muke bayaya tufungule manchu. Tele mato se interese na mnira mboka. Tuache bange na bombe litaze kabure. Tuache mimba shifu mana doye mbela mboka. Ekenge nabo, tenterente nabo. Sinzili naba mankochi njuminu nabana tusabwa. Ekenge nabo, tenterente nabo. Sinzili naba mankochi njuwanze kutukumbuka. Biana tulamuke, biana tukalamuke. Biana tufunduke, tushimame, tufungulene manju. Biana tulamuke, bajo nabana muke. Shebote tufunduke, avenira mukini yetu nishi. Biana tulamuke, biana tukalamuke. Biana tufunduke. Tuke tushimame tufunguleni manju. Biana tulamuke, bajo nabana muke. Shebote tufunduke, avenira mukini yetu nishi. Mungu nongopa politika, mungu pake bange. Babibi abantu kui babintu abantu wa mungope. Mungu nongopa ka politika, mungu pake dawa. Kuba mifumu na maripa, mungu pake apana. Nikushikia zeme frapa, acha kumba bile. Bata kuwa kule kwa baba politisya. Nikushikia zeme frapa, kia mitofe kala kimia. Bata kuwa kwa batu njobe kuna pouvoir. Pouvoir inesata. Yenu ni abantu yetu shie ni ya mungu. Manda inesata. Sheturu mikabula yonjo tuta inyanganya. Moshi miye biyata, moshi tone buye. Shenjo tune mikongani ya kamukongi. Moshi miye bamizisi anduna abantu abule. Chendo tune melomani ya kamukongi makamba. Ona vile mugu nakufa, ona vile mugu nenda. Ona vile mugu netuacha, tunashinda kumiproteje. Ona vile mugu nakufa, ona vile bene myo. Tukuna bagia bama yeti manju watu ya kubiprocede. Tungaleni mikono, tujengeni inchi. Musaiti ya biyana makashi batumike. Musha kutumika sana biyakaba ila tuyaona. Muprepare releve, mukabule kubiyana chance. Ekenge nabo, tenterente nabo. Sinzili naba mankochi njuminu nabana tusabwa. Ekenge nabo, tenterente nabo. Sinzili naba mankochi njuwaze kutukumbuka. Biyana tulamuke, biyana tukalamuke. Biyana tufunduke, tushimame, tufunguleni manju. Biyana tulamuke, bajo nabana muke. Shebote tufunduke, avenira mukini yetu nishi. Biyana tulamuke. Biana tukalamuke, biana tufunduke, tushimame, tufunguleni manju. Biana tulamuke, bajo nabana muke. Shebote tufunduke, avenira mukini yetu nishi. Mu ministère sport, combien de jeunes sportifs mukuna tumika nabo. Ministère culture, hamuna ta artiste moya mune bitumika je. Wabigule bariandika sema mere de la vini. Foba kakwe baba yabo watuaze mash. Wabigule bariandika sema chefu de quartier. Foba kakwe baba yabo watuaze mash. SX tulama bajo nabana muke. Shebote tufunduke avenira mukini yetu nishi. Nanya risema zema politiki ni paka ya bantu bakubwa. Nanya risema ni paka bonjo baku deside piyoti. Nanya risema politiki ni paka ya bantu mamankochi. Sheba pobre batu mapolo ya tozu kusema gindu. Beguna uwa mukini na rezonju tukuna lenga sana. Beguna pie mukini meshie tuku paka na lewa bombe. Beguna ujisha mukini tune babike mikono. Beguna ujisha mari shebi ya natupatie mukindu. Beja kutuma bato toa boku mabulaya.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Jeunesse au couloir de ce vendredi 3 juillet 2026. Pour ce premier numéro du mois de juillet 2026, nous allons revenir sur les systèmes LM de licence, master, doctorat, ses défis et ses avantages. Dans cette émission, nous allons recevoir les acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Bukavu et dans d'autres provinces. Les systèmes LM2, licence, master, doctorat, a et entre en vigueur en République démocratique du Congo dès l'année académique 2021-2022. Il a complètement remplacé l'ancien système appelé PADEM, organisé autour des 8 domaines d'enseignement à travers des semaines et des unités d'enseignement. Il vise à professionnaliser les cursus et à harmoniser les diplômes aux standards internationaux. Les 3 grades universitaires, licence obtenue après 3 ans d'études, soit 6 semestres, 180 crédits, master accessible après la licence pour 2 ans d'études supplémentaires, soit 4 semestres, 120 crédits. Doctorat dernier cycle, nécessitant généralement 3 ans de recherche et de soutenance des thèses après le master, domaine d'enseignement principal. Les curricula LM2 en République démocratique du Congo s'articulent principalement autour des 8 domaines validés par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Sciences agronomiques et environnement, sciences économiques et de gestion, sciences juridiques, politiques et administratives, sciences de l'homme et de la société, sciences psychologiques et sciences de l'éducation, et technologie et sciences de la santé, ainsi que les lettres, langues et arts, défis et critiques. Bien que le système LMD ait pour but de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants, sa mise en œuvre a été jugée rapide et parfois difficile par les étudiants et les enseignants, notamment en raison du manque de moyens pédagogiques et de l'adoption au crédit et de l'adaptation au crédit. Pour décortiquer ces thématiques, nous recevons comme invité le professeur Machozi Bengeya, secrétaire général en charge de recherche à l'Institut supérieur des commerces ISC Bukavu. Professeur Bengeya Machozi, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour et merci pour l'invitation.
Nous serons également en ligne avec le professeur Amissi Safari, secrétaire général académique de l'ISP Bukavu. Il est également directeur général ad intérim de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Nous recevons également Junior Kamwele, président du conseil urbain de la jeunesse de Bukavu. Junior Kamwele, bonjour et bienvenue. Coordination de cette émission, Claude Kachonga. Modération, Junior Woti et Elias Munganga. Ingénieur Denis Kandeke assure la mise en onde. Cette émission sera rediffusée le dimanche à partir de 17h, heure locale. Junior Oti, bonjour et bienvenue.
Bonjour Elias Munganga, bonjour à tous les invités. Nous rappelons également que nous sommes suivis en direct sur www.bukavufm.com, c'est à travers le monde entier.
Merci Junior Kamwele, nous commençons par vous. Nous sommes avec des juniors, il y a Junior Oti et Junior Kamwele, donc les auteurs ne doivent pas prêter des confusions. Et comment se portent les conseils urbains de la jeunesse?
Alors, de façon générale, les conseils se portent tant bien que mal. Nous sommes en train d'évoluer comme toutes les grandes structures de la société civile en cette période de crise. Tantôt avec beaucoup de prudence, tantôt avec beaucoup de méfiance envers différents acteurs. Mais nous sommes quand même là, nous sommes en train de travailler. Voilà, c'est ça de façon générale, nous sommes en train de travailler.
Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous êtes en train de travailler, vous faites quoi concrètement?
Concrètement, maintenant là, actuellement, nous sommes le pont sur lequel doivent passer les jeunes pour atteindre différentes autorités ainsi que différents partenaires techniques et financiers de l'État et qui travaillent sur les questions de la jeunesse. Et actuellement, nous sommes en train de travailler avec certaines ONG ainsi que d'autres organisations internationales qui sont dans la ville de Bukavu et qui sont en train de réfléchir sur différentes questions, différentes thématiques comme la paix et la jeunesse plus précisément.
Voilà, vous avez récemment sorti un document intitulé Cri d'alarme sur l'aggravation des souffrances des populations de Bukavu. Est-ce qu'on peut avoir les résumés de ce document? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? À qui vous vous êtes adressé? Est-ce que vous avez eu des suites?
Alors, le document Cri d'alarme, il date déjà d'un bout de temps, je crois. Et nous étions en train de nous adresser aux différents décideurs politiques et de notre pays. Plus particulièrement à ceux qui sont à Kinshasa, mais également à ceux qui sont à Goma. Nous étions en train d'interpeller leur conscience citoyenne ainsi que leur humanité en quelque sorte, parce que je crois que c'est la chose que nous partageons tous en commun de façon générale, sur les conditions de vie des populations vivant plus particulièrement à Bukavu et de façon générale dans les zones touchées par les conflits. Qu'est-ce que nous étions en train de dire? Nous étions en train de demander si il était possible qu'on ouvre les banques, s'il était possible que le couloir humanitaire tel que c'était signé dans différents accords sur la paix, que ce soit à Doha ou en Suisse, est-ce que ces mesures-là pouvaient être mises en œuvre? Et nous avons surtout rappelé que la population bukavienne est très résiliente, mais être résilient ne signifie pas avoir une capacité indéfinie à supporter et accepter la souffrance. Voilà l'économie en fait de la lettre. Est-ce que nous avions eu bien des causes? Non. Malheureusement, nous faisons face aux acteurs des deux côtés qui comprennent très rarement et très difficilement les langages pacifiques et tout. Bon, je ne vais pas entrer dans les fonds sur cette question, mais voilà, nous n'avons pas eu de feedback.
Donc,
est-ce qu'il y a une réaction de la part de la société? Oui, il y a Bukavu FM et d'autres médias qui nous ont accompagnés pour faire entendre notre voix, pour faire entendre notre demande. Et voilà, c'est tout ce que je sais faire remarquer à nos
Donc, auditeurs. Donc, après avoir sorti la correspondance, vous n'avez pas pu mener d'autres démarches pour que vous puissiez être entendu?
Exactement, nous avions mené des démarches, nous étions en train d'appeler, on appelle ici, on décroche, bon, on nous dit on va réfléchir, ici on ne décroche pas, voilà. Vous connaissez comment les choses fonctionnent ici chez nous. Les autorités pensent que quand on est en train d'appeler pour un plaidoyer quelconque, forcément on est en train de rouler pour un camp donné. Ceux qui sont acquis nous prennent pour les sympathisants du mouvement AFCM 23. AFCM 23 aussi pense que nous sommes en train de rouler pour le compte du gouvernement de Kinshasa. On oublie que nous sommes une représentation neutre et apolitique. Ce qui fait que toutes les parties doivent être nos interlocuteurs tout naturellement. Et toutes les parties ont l'obligation de nous écouter. Parce que nous portons une grande charge, celle de maîtriser les jeunes de la ville de Bukavu. Et nous le faisons à notre manière. Mais malheureusement...
Les maîtriser, c'est trop fort. Les encadrer, dans le sens de les encadrer.
Bon, voilà, encadrer, plus merci pour ces mots. Nous les encadrons d'une certaine manière et nous évitons de façon subtile, sans que les gros poissons ne les remarquent. Nous essayons de contribuer à la création ou à la consolidation du climat de paix qu'il y a dans cette ville. Sauf que nous ne sommes pas là pour commencer à crier, à chanter comment nous faisons et tout, mais nous travaillons en autre façon. Malheureusement, le feedback n'est pas tel qu'on l'aurait voulu.
On espère que vous serez écouté un jour. Junior, vous avez une question à poser homonyme.
Oui, Junior est revenu sur les actions qui ont été déjà menées. Malheureusement, il n'y a pas de feedback positif. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez faire prochainement pour que vos revendications soient répondues ou exaucées de façon positive?
Pour être beaucoup plus réaliste, je crois que nous n'avons pas, et être honnête également, nous n'avons pas de plan concernant les autorités. Mais étant donné que nous avons la capacité de parler aux jeunes et la possibilité de les faire, nous sommes en train de les faire. Parce qu'il faudrait remarquer qu'à un moment donné, les discours de haine et d'exclusion tribale étaient en train de pulluler dans cette ville. Oh, communauté Fulani, ce sont des gens qui sont comme ça, ce sont des rebelles, les gens de tel coin, ce sont des traîtres. Et nous avons essayé de lutter avec les journalistes qui nous ont tendu la main. Nous avons essayé de lutter à notre manière contre ça. Nous étions en train de rappeler à l'époque aux gens que non, dans chaque communauté, il peut y avoir des traîtres, des brebis galaises et tout. Et puis, ce n'est pas parce que nous sommes ici d'une même tribu que nous sommes obligés d'avoir la même manière de penser, la même manière de concevoir la chose politique. Vous voyez, ce sont des plaisanteries que nous avons menées à notre manière, mais Nous ne sommes pas là pour vanter ce que nous faisons, mais nous sommes en train de travailler quand même.
Ça veut dire que si nous comprenons très bien, la jeunesse au niveau urbain n'a pas de perspective jusque-là, parce qu'il n'y a rien que vous prévoyez.
Nous n'avons pas de perspective en termes de plaidoyer qui puisse nous faire penser que nous allons être écoutés, mais en termes de travail sur terrain, nous sommes en train de travailler. Par exemple, tout récemment, nous avons encore sorti un autre message où nous étions en train de nous adresser aux jeunes entrepreneurs de la ville de Bukavu, leur demandant de penser à la création des unités de production semi-industrielles pour recycler les déchets plastiques. Je sais que c'est une autre thématique, mais nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de parler aux nôtres, parce qu'eux, au moins, ils nous écoutent. Si j'ai dit que nous n'avons pas de perspective en termes de plaidoyer, c'est pour atteindre ces gens-là. Voilà. Ils sont méfiants et dédaigneux envers les jeunes, et ils pensent que nous ne pouvons que servir, quid pour l'armée, quid pour les mouvements d'autorésistance, et je ne voudrais pas revenir sur ces questions-là.
Et donc c'est fini jusque-là, quand vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas de feedback de part et d'autre, et vous, la jeunesse, vous avez jugé bon de vous taire.
Nous n'avons pas jugé bon de nous taire, nous allons continuer à écrire, nous allons continuer à parler, ce que nous avions toujours fait, mais dire que nous avions défini d'autres mécanismes qui soient nouveaux, en tout cas,
cela n'existe pas actuellement.
Actuellement, nous n'avons pas d'idée. Peut-être que vous allez nous inspirer, peut-être que les nombreux auditeurs de Bukavu FM qui nous suivent vont nous inspirer, vont nous donner des stratégies et des techniques et nous dire, non mais président junior, toi et ton comité, vous êtes en train de faire ceci, essayez plutôt cette approche et voir ce que ça va donner.
D'accord.
Professeur, vous êtes au quotidien, avec les jeunes. Vous avez suivi religieusement le président urbain du conseil de la jeunesse. Je ne sais pas si vous avez un mot à placer par rapport à ces interventions.
Oui, je salue l'action qui est en train d'être menée par, comme on l'a dit, l'Union fait la force. Alors cette action qui sont en train de mener, je pense que c'est pour améliorer le vécu de la population de la ville de Bukavu en passant par la jeunesse. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on le sache, que c'est la jeunesse qui comporte beaucoup plus de pourcentage en termes d'habitants dans chaque ville qu'on peut considérer, surtout ici chez nous. Nous avons une jeunesse qui est très, très prometteuse et elle est nombreuse et donc l'encadrer, c'est une très bonne chose. Cependant, parfois, on remarque aussi qu'il y a, comme il l'a dit, des brebis galeuses, même parmi les jeunes, ceux qui évitent, par exemple, de suivre le chemin de l'école et qui peuvent se contenter à passer des journées en train de discuter sur des futilités parfois. Et parfois même, être entraînés par je ne sais pas, les sapilos ou autres drogues, j'en passe. Et c'est un grand travail à effectuer pour amener tous les jeunes à comprendre que la construction de notre pays dépend de ce qu'ils sont en train d'être aujourd'hui, de décider aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous avons, le résultat de ce que nous avons décidé hier. Et demain, nous serons les résultats de ce que nous décidons aujourd'hui. Merci.
Merci, prof. Junior, vous gérez une masse importante de la population, la jeunesse. Quel regard avez-vous sur l'usage de l'intelligence artificielle? Parce que j'ai abordé cette question plusieurs fois dans cette émission, mais comme nous avons l'honneur de vous recevoir ici présent, je ne sais pas si vous en pensez ou vous avez un jour entendu parler. Quel regard avez-vous par rapport à l'intelligence artificielle?
Alors, merci beaucoup parce que c'est une question, c'est un sujet d'actualité et un sujet qui mérite qu'on s'y attelle avec tous les sérieux du monde. Pourquoi je l'ai dit? D'abord, il faudrait que nous ayons une même compréhension de l'intelligence artificielle. Et par là, il faut dire que l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des systèmes informatiques conçus pour aider l'être humain à accomplir certaines tâches de façon plus automatique et sans une quelconque intervention après qu'on ait généré un code, après qu'on ait donné un prompt, comme on l'appelle de façon générale. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle avec tous les sérieux du monde? Parce que c'est d'abord un sujet politique. Ensuite, c'est un sujet économique. l'intelligence artificielle. Également, c'est une question philosophique et anthropologique. Je me résume. Pourquoi j'ai dit que l'intelligence artificielle, c'est un sujet politique? Qu'on le veuille ou pas, il y a eu une révolution technologique et là maintenant, nous sommes en train d'assister à une révolution de la puissance. Qu'est-ce que ça signifie? Avec des outils technologiques comme nos téléphones, nos ordinateurs et autres appareils, l'humain est arrivé à un stade où il sait créer des codes, où il sait créer des systèmes informatiques qui peuvent s'autogérer. Et c'est ça qu'on appelle intelligence artificielle. Alors, le but recherché par l'humain, c'était celui de doubler la puissance de l'homme dans sa façon de faire. Par exemple, je suis expert comptable. Au lieu que je passe une semaine, des semaines à entrer des codes dans la machine, à les analyser, directement, je suggère à l'intelligence artificielle, après que j'ai introduit ces codes, de faire telle ou telle autre analyse pour moi. Et l'intelligence artificielle me donne directement des réponses. Il y a beaucoup de modèles d'intelligence artificielle, c'est comptable, c'est générative, c'est militaire, c'est politique et qu'en sais-je encore. La question devient politique quand on se demande qui stocke les données, par exemple. Qui crée les modèles et qui stocke les données. On voudrait bien stocker les données au Congo, mais nous n'avons pas des serveurs. Les données sont stockées aux États-Unis, sont stockées à Pékin ou je ne sais pas où. Et celui qui stocke les données, il a accès à notre intimité. C'est-à-dire qu'il peut facilement nous contrôler, il peut facilement nous surveiller. Il peut également nous suggérer une manière de penser. Il peut orienter le rapport que nous aurons au monde. Là, c'est purement politique. Et nos dirigeants, je pense qu'à un moment donné, ils doivent arrêter de s'embrouiller avec les histoires des guerres, avec les histoires des constitutions, et penser le monde avec les défis qui sont en train de se présenter à nous. Comment ça devient un sujet philosophique?
Et ils doivent cesser. Là, vous vous adressez à qui?
Aux dirigeants, de façon générale, toutes les tendances confondues. Quand je parle des questions philosophiques, comment l'intelligence artificielle est une question philosophique selon nous, jeunes? Parce que l'intelligence artificielle peut, par exemple, prendre votre image, vous, Elias, et vous dénuder. On vous enlève les habits. Mais à qui appartient cette responsabilité-là? Est-ce que c'est à l'être humain? Ou est-ce que c'est à l'être humain qui a demandé, qui a introduit ces codes? Ou est-ce que c'est à la machine qu'on va demander des comptes? Si l'intelligence artificielle commet une erreur, vous êtes en train de faire une recherche sur la thèse, sur ceci ou sur cela, mais on vous induit en erreur. L'intelligence artificielle vous induit en erreur, vous donne des codes qui ne sont pas exacts. Mais à qui appartient cette responsabilité-là? Et puis, c'est quoi l'intelligence? Est-ce que pour la machine, on va parler d'intelligence ou c'est pour l'homme qu'il faut qu'on parle d'intelligence? C'est le deuxième point qui me fait dire que nous devons parler de cette question avec tous les sérieux du monde. Le troisième point et l'avant-dernier, pour ne pas monopoliser la parole, c'est l'aspect anthropologique de la question. Nous avons grandi dans un monde où on nous apprenait à lire et à écrire. Actuellement, il faut apprendre à lire, à écrire et à parler avec la machine. Pourquoi il faut apprendre à parler avec la machine? Eh bien, parce que je n'aurais pas passé une semaine en train d'écrire 15 pages sur telle ou telle autre donnée ou telle autre question. Pendant qu'avec la machine, dans 5 minutes, j'ai pu avoir les mêmes 5 pages. Quel est notre rapport par rapport à cela? Comment nous comprenons cela? Certainement, sur le plan économique, peut-être que le prof va y revenir, il y a des emplois qui seront supprimés. Juristes, comptables, ceci, cela. Mais là, il ne devrait pas être notre préoccupation. Notre préoccupation devrait être là où on se demande qu'est-ce que cela aura comme conséquence sur l'homme lui-même. Est-ce que j'aurais besoin de mémoriser 500 pages de Grévis pendant que je sais qu'avec l'intelligence artificielle, dans 2-3 mouvements, j'ai pu avoir les mêmes données? Est-ce que je peux apprendre toujours? Je peux avoir le...
Junior, vous avez toujours la parole. Est-ce que les jeunes que vous dirigez comprennent tout ce que vous expliquez?
J'étais en train de poser les cadres avant de répondre à la question. Est-ce que j'aurais le même courage pour apprendre la dictée, apprendre l'orthographe, pendant que je sais que l'intelligence artificielle peut faire tout cela pour moi? Est-ce que j'aurais toujours l'envie d'apprendre les calculs complexes et ouvrir mon cerveau, épanouir ma façon de réfléchir et d'interagir avec les chiffres pendant que je sais que l'intelligence artificielle peut faire ça? La réponse, c'est non. Et maintenant, quelle est la réponse anthropologique que les hommes politiques nous proposent? Actuellement, il n'y en a pas. Maintenant, s'il faut que je revienne dans la réalité de Bukavu, les jeunes utilisent des intelligences artificielles génératives, notamment ChatGPT, Gemini, Perplexy et qu'en sais-je encore. Quel est l'usage qu'ils en font? Ils utilisent ça pour générer des textes, des TP, des mémoires, et ceci, cela. Mais l'esprit critique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle à ces jeunes, qui leur dit qu'il faut avoir un esprit critique, qu'il faut savoir analyser les données? Est-ce qu'on touche les questions de fond par rapport à ça quand les jeunes utilisent ça? Et pourtant, il y a un ministère de la jeunesse qui a vu cela venir. Il y a un ministère de l'intérieur qui a vu cela venir. Mais quelles sont les mesures qui ont été adoptées pour contrer cela?
Est-ce que vous pensez qu'il est possible, en tout cas, de limiter l'usage de l'intelligence artificielle actuellement, et plus particulièrement ici chez nous, au sud Kivu?
Limiter l'intelligence artificielle.
L'usage
de l'intelligence artificielle serait une erreur catastrophique. Pourquoi? L'intelligence artificielle est là pour décupler la puissance de l'homme dans sa façon de faire. En Chine, aux États-Unis, au Japon, les deux Corées et dans presque tous les pays émergents du monde, maintenant là, on se demande comment les jeunes, on va les initier à ça. Ce que nous demandons ici chez nous, c'est qu'il y ait des lois que l'on adopte des lois pour l'usage et qu'il y ait des forums qui soient organisés pour que les jeunes apprennent comment utiliser cette chose.
Mais vous avez semblé regretter l'arrivée de cet outil d'intelligence artificielle. Alors vous parlez encore de l'initiation à son usage. Alors n'est-ce pas une façon de vous contredire?
Non, je ne suis pas en train de me contredire. Je suis en train de regretter une chose. La question arrive, on l'a vu venir
rapidement parce
déjà vers 2006.
C'est un autre sujet aussi.
Déjà vers 2006, 2010, 2011, on voyait, il y avait déjà des gens qui écrivaient sur cette question. On a vu la chose venir. Mais ici, chez nous, nous ne sommes pas préparés. C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de dire à ChatGPT, par exemple, quand je parle avec lui, ChatGPT part conserver ça aux États-Unis. Mon intimité avec ChatGPT se trouve aux États-Unis, se trouve je ne sais pas où, et non au Congo. J'ai regrette ou je sens que je suis désolé de voir que ce sont les autres qui conservent mes données, ce sont les autres avec qui j'interagis et qui me dictent la manière que je dois adopter face à tel ou tel autre problème et non des codes générés par mes propres frères congolais. Mais le mal étant fait, qu'est-ce que nous préconisons? Nous préconisons qu'il y ait une approche différente, qu'il y ait une autre manière de réfléchir, qu'il y ait une autre manière de se comporter par rapport à la
Merci.
Question, entre autres, l'initiation
Merci,
des jeunes.
Merci, bien que vous n'ayez pas répondu à la question que j'ai posée, professeur. Vous qui vivez au quotidien avec les étudiants, parce qu'on a dit que beaucoup de travaux scientifiques sont générés par l'intelligence artificielle, malheureusement mal exploitée. Je ne sais pas, vous avez un mot à placer par rapport à ça pour éclairer la lanterne de nos auditeurs.
Ok, merci de cœur pour cette préoccupation qui est à la une. Et on ne peut pas se cacher la face. Nous sommes obligés de marcher avec l'intelligence artificielle, mais d'une manière réfléchie, d'une manière orthodoxe, de sorte que pour ce qui concerne les publications, pour ce qui concerne les travaux des apprenants, il est un taux acceptable d'usage de l'intelligence artificielle. Ils peuvent recourir à l'intelligence artificielle pour certains calculs, pour certains tests statistiques, pour des analyses. Et s'ils recourent par rapport à la rédaction, il ne faudrait pas qu'ils puissent dépasser un seuil acceptable. Et dès qu'ils dépassent ce seuil acceptable, nous comprenons qu'eux n'ont rien fourni comme effort. Or, ils doivent aussi fournir un effort. Et aujourd'hui, il est vrai que tout ce que l'intelligence artificielle nous fournit n'est pas toujours verset biblique ou parole de l'évangile, comme nous aimons à le dire. Et donc, il faut que l'homme continue à s'appuyer, que ce soit juste une aide dans le travail que l'homme est en train d'effectuer. C'est-à-dire, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui travaille, mais pour qu'il aille beaucoup plus vite, il va recourir à l'intelligence artificielle et même ce qui lui est fourni par l'intelligence artificielle, il faudrait qu'il puisse l'analyser, le critiquer et peut-être le modifier, le changer pour qu'il y ait aussi ça doit être son flair dans le travail qui est accompli. Voilà un peu ce qui est préconisé jusqu'à ce jour. On n'interdit pas d'utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut l'utiliser intelligemment. Ça signifie qu'il y a des seuils acceptables et les seuils qu'on ne peut pas accepter.
Oui, professeur, vous venez d'évoquer un point très capital, décès acceptable, décès non acceptable. Alors, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, dans différentes universités, s'agissant des travaux de fin de cycle, comme le mémoire des TFC, la plupart des étudiants recourent à l'intelligence artificielle. Mmh. Il y a même des IA qui sont capables de travailler à mémoire du début à la fin. Alors vous, en tant que professeur, alors que vous êtes appelé à former des cadres qui seront capables d'apporter un changement ou un plus à la société, n'avez-vous pas de possibilité pour détecter les travaux qui ont été générés par l'IA à 100%?
Ah oui, oui, au fait, c'est, comme on le dit souvent, Dawayamoto Nimoto, ça signifie c'est toujours en recourant encore à d'autres logiciels. Il est d'autres logiciels qui analysent le texte et qui nous donnent le taux, par exemple, du texte qui a été puisé ailleurs. Nous avons aussi le taux du texte qui a été généré par l'intelligence artificielle. C'est là où nous avons parlé d'un seuil qui est acceptable. Et si on en a eu cet élément, il faut qu'on reprenne. Il faut qu'on reprenne. On peut même annuler. D'une manière générale, 20%, un taux de 20% est acceptable. Ça relève de ce que j'ai déjà vécu avec des revues de publication, des revues scientifiques, avec 20% généré par l'intelligence artificielle ou copié à d'autres personnes, on peut accepter. Et que le 80% soit réellement produit par l'étudiant. Mais il y a quelque chose d'autre. Lorsque l'étudiant arrive avec son travail, il ne faudrait pas qu'il vienne à la fin de l'année, même s'il a un directeur, je ne sais pas de quel calibre, et qu'il vienne avec tout le travail réalisé, fini. Mais il faut aller avec l'étudiant au fur et à mesure que vous évoluez. C'est vous qui lui dites, vous avez posé deux questions, vous pouvez ajouter une troisième question. Il a posé telle question, vous pouvez dire celle-ci, nous l'enlevons, mais voici une autre question pour que vous arriviez à découvrir quelque chose de nouveau. Et quand vous allez avec lui ainsi, vous le suivez de très près, il sera difficile que tout soit généré par l'intelligence artificielle.
Et peut-être la dernière question, Elias, je vois qu'elle était en train de nous acculer. Prof, quelles sont les conséquences qui guettent, en tout cas, l'usage abusif de l'intelligence artificielle dans le secteur éducatif congolais?
Oui, ça, on risquerait de penser qu'on est en train de former alors qu'on déforme. Parce que lorsqu'on ne forme pas, on déforme. Mais je vais vous il y a un neveu dans la famille, c'est un jeune garçon, il est à Kisangani. Il a fait des 70% et plus dans son cursus à l'école secondaire. Mais arrivé en sixième année, influencé par les autres, ils ont recouru à l'IA. Et je ne sais pas quel était le rôle, par exemple, de surveillant pour qu'au niveau de l'examen d'État, on puisse recourir à l'intelligence artificielle. Et il a raté son diplôme. Il a échoué. Donc, vous voyez que si on recourt à l'intelligence artificielle d'une manière aveugle, on risque de se déformer au lieu de se former.
D'accord, merci beaucoup.
Voilà, Junior, en guise de conclusion, vous allez adresser un message à toute la population de la ville de Bukavu, de la province du Sud Kivu, pourquoi pas la population du monde entier qui vous écoute en ce net moment sur les ondes de la radio Bukavu FM. Un message par rapport au fonctionnement actuel du Conseil urbain de la jeunesse et par rapport à l'intelligence artificielle en ce qui concerne la jeunesse.
Alors, aux jeunes de Bukavu plus particulièrement, je vais demander beaucoup de résilience et surtout être critique. Dans les camps qui sont en train de se battre maintenant là, il n'y a pas un camp de gens bien et il n'y a pas un camp de mauvais. Le seul camp que nous savons vous demander de suivre, c'est celui de vaquer à vos occupations, de regarder la politique non pas indifféremment, mais de vaquer à vos occupations calmement, de ne pas chercher à adhérer à un camp tout comme à un autre. Il y a beaucoup de manipulations. Et c'est surtout l'avenir de notre pays qui est en jeu. Peut-être que si vous pensez qu'il est possible qu'on ait une troisième voie, c'est celle-là qu'il faut qu'on suive, loin de ces gens qui sont en train de se battre pour des motifs qu'eux seuls connaissent. Alors, par rapport aux questions que nous avons abordées, entre autres celles de l'intelligence artificielle, eh bien, essayons de cogiter, s'il vous plaît. C'est l'avenir de toute l'humanité qui en dépend. Actuellement, les grandes puissances, à savoir les deux superpuissances, les États-Unis et la Chine, sont en train de se battre pour acquérir la super intelligence artificielle. Et ça aura un impact non négligeable, que ce soit dans le monde de l'industrie pharmaceutique, que ce soit dans le monde des finances, que ce soit dans le monde. Dans presque tous les domaines, il y aura un grand bouleversement. À nous maintenant de dire comment nous allons vivre cela en tant que des spectateurs ou des victimes ou en tant que des acteurs qui peuvent avoir aussi des choses à dire et à proposer par rapport à la question.
Voilà, Junior, merci pour votre participation. Je crois que ça ne sera pas la dernière. Nous serons toujours avec vous lorsque il y aura nécessité de vous contacter. Je crois que vous serez toujours accessible.
En tout cas, nous restons très ouverts, très accessibles à tout moment pour intervenir sur telle ou telle autre question qui concerne la jeunesse. Et nous sommes en train de profiter pour dire merci à la radio Bukavu FM qui nous a toujours ouvert ses portes.
Voilà, nous prenons une courte pause afin de vous libérer pour prendre les sujets principaux de cette émission, Junior. Je crois que nous serons ensemble prochainement.
Oui, nous allons être ensemble prochainement. Je le sais, bon, je ne le crois pas. Une fois que nous aurons une invitation, si nous sommes toujours en vie, en tout cas, nous allons être là. Et nous viendrons, n'est-ce pas, parler jeunesse, aborder différentes questions qui cadrent avec la jeunesse et l'évolution du pays de façon générale, avec les sérieux que nous pouvons identifier ou que nous pouvons trouver.
Merci.
Merci.
Biana tulamuke, biana tukalamuke, biana tuvunduke tushimame tufungulene macho. Biana tulamuke, bajo na banamuke, shebote tuvunduke avenira mukini yetu nishi. Biana tulamuke, biana tukalamuke, biana tuvunduke tushimame tufungulene macho. Biana tulamuke, bajo na banamuke, shebote tuvunduke avenira mukini yetu nishi. Nanyari sema zema politiki ni paka ya bantu bakubwa. Nanyari sema ni paka bondo baku deside piyote. Nanyari sema politique ni paga ya bantu ba mankochi. Sheba pauvre bantu mapolo atozu kusema kintu. Beguna uwa mukini na rezonju tukuna lenga sana. Beguna pie mukini meshie tukupaga na lewa bombe. Beguna jisha mukini tune babike mikono.
Nous revenons dans ce studio numéro 1 de la radio Bukavu FM pour parler du système LM de licence master doctorat. Nous gardons les professeurs Bengeya Machozi. Nous allons d'abord recevoir le professeur Amis Safari. Je l'ai dit à l'introduction de cette émission qu'il est le secrétaire général académique de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bukavu. Il est également directeur général intérimaire de cette institution. En guise de rappel, qu'est-ce que le système LMD? Quels sont ses avantages et ses limites? Nous écoutons le professeur Amis Safari. L'élément n'est pas prêt. Donc, question principale, qu'est-ce que le système LMD? Quels sont ses avantages et limites? Également, en troisième lieu, les professeurs répondront à la question de savoir pourquoi certains parents se plaignent comme quoi les 10 systèmes, c'est-à-dire LM2, est resté plus théorique que pratique et favoriserait les étudiants faibles à les demeurer davantage car seul le fort travaille lors des travaux en groupe. Également, il reviendra sur
un certain nombre de recommandations. Nous écoutons le professeur Amis Safari.
Alors, en guise de rappel, qu'est-ce que le système LMD? Le système LMD, c'est un sigle. L pour dire licence, M pour dire maîtrise et D, doctorat. Le système LMD, c'est un système d'enseignement qui est différent de l'ancien système dans lequel nous avons évolué depuis la création de l'université congolaise. Ce système-là, l'ancien système comportait le gradiat comme premier cycle, la licence comme deuxième cycle. J'insiste bien, je voudrais que vos auditeurs retiennent bien premier cycle, deuxième cycle. Et puis, le troisième cycle était composé du diplôme d'études approfondies DEA ou diplôme d'études spécialisées DES et enfin les doctorats de 3 ans minimum. Vous voyez, l'ancien système avait donc, on peut dire, 4 diplômes, tandis que le nouveau système LMD n'en a plus que 3. Le diplôme du premier cycle, du deuxième cycle et du troisième cycle. Premier cycle, licence, deuxième cycle, maîtrise, beaucoup de gens disent master en anglais, comme vous voulez. Et puis, troisième cycle, le doctorat. Alors, ce système, les pionniers, parmi les pays pionniers du système, c'est le Canada. Ce sont eux qui sont vraiment les pionniers du système LMD. Ils en ont l'expérience depuis les années 50. Ils sont dans ce système-là. Donc, c'est un système également qui a été adopté par l'administration de la République démocratique du Congo. Le président de la République a promulgué la loi cadre de l'enseignement national en 2014. Et c'est dans cette loi cadre de l'enseignement national qu'il est stipulé que le système éducatif, le système d'enseignement congolais passe de l'ancien système au système LMD. Elle, comme premier cycle, le système LMD de premier cycle, il est de 3 ans selon les filières ou 4 ans hein, chez les ingénieurs. Le deuxième cycle, c'est maintenant la maîtrise qui est de 2 ans d'une manière générale ou 4 ans chez les médecins. Et le troisième cycle, le doctorat qui est de 3 ans minimum. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de DEA, il n'y a plus de diplôme d'études approfondies ou DES, il n'y en a plus. Faut-il aussi insister que celui qui terminait le gradiat était appelé gradié. Celui qui terminait la licence dans l'ancien système était appelé licencié. Vous voyez, c'est lui qui terminait le doctorat, et bien, était appelé docteur là, rien n'a changé. Mais dans le nouveau système, c'est lui qui termine le cycle de licence, du premier cycle de licence, il n'est pas licencié. Ne confondez pas donc celui qui obtient le diplôme de licence du LMD et celui qui a obtenu le diplôme de licence de l'ancien système. Non, c'est l'ancien système qui est appelé licencié. Mais le nouveau système, il n'est pas appelé licencié. Vous, étudiants qui êtes en train de me suivre à travers ce média, ne confondez donc pas, ne vous appelez pas licencié. Non, vous êtes des bachelors. C'est ce que dit la loi. La loi dit que celui qui termine le diplôme de licence LMD a le grade de bachelor. Vous n'avez pas le grade de licencié. Non. C'est pourquoi les gens disent que non, le nouveau système, il est venu affaiblir les gens. Il obtient maintenant sa licence en 3 ans. Non, vous n'obtenez pas votre licence en 3 ans. La licence ancien système, c'est un diplôme de deuxième cycle. La licence nouveau système, c'est un diplôme du premier cycle. Ne confondez pas, s'il vous plaît, les deux cycles, les deux systèmes de formation. C'est un autre système auquel nous sommes arrimés. Et d'ailleurs, l'année passée, c'était la dernière année d'ailleurs de la licence ancien système qu'on appelait PADEM, hein, Pacte de modélisation de l'enseignement supérieur. Et donc maintenant là, aucun établissement de la RDC n'est pas organisé encore la licence de l'ancien système. Nous sommes tous maintenant totalement dans le nouveau système. On obtient le diplôme du premier cycle LMD, on a le grade de bachelor. Celui qui obtient le diplôme du deuxième cycle LMD, ça veut dire le cycle de maîtrise, il a le diplôme de master. Et celui qui obtient le diplôme du troisième cycle LMD, c'est le diplôme de doctorat, il est PhD. Philosophical doctores. Donc voilà comment le système est structuré. Alors, quels sont les avantages et ses limites? Bien évidemment, chaque système a ses avantages et ses limites. Nous sommes dans une société qui évolue, c'est une société dynamique. Nous, nous sommes des professionnels de l'enseignement et donc nous appliquons la politique nationale de l'enseignement. Il en est de même des étudiants. Vous tous, toutes qui étudiez en RDC, ben, vous êtes soumis à la politique nationale de l'enseignement. Et donc, moi, je ne suis pas décideur. Je peux donner ici les avantages et les limites selon moi, mais qu'est-ce que cela va faire? Le système est tel qu'il est. La législation congolaise a décidé de migrer vers le nouveau système. Pourquoi, si, comme je fais partie de la task force au niveau national et du LMD, pourquoi on a préféré migrer dans le nouveau système LMD? Parce que c'est un système qui est adopté dans la plupart des pays occidentaux et pays africains. Il arrivait un moment où notre système, nos diplômes n'étaient plus lisibles sur le plan international. Quelqu'un qui terminait les gradias ici en RDC, il va présenter ses diplômes ailleurs, on ne sait plus ce que signifie gradia. Il est licencié ici de 5 ans, s'il vous plaît, deuxième cycle en RDC, il va chercher à poursuivre le doctorat à l'étranger, on lui dit non, vous avez un diplôme de licence, c'est pas un diplôme du deuxième cycle, parce que pour l'LMD, diplôme de licence est un diplôme du premier cycle. Donc, il y avait cette confusion-là, même si le ministre avait signé une circulaire d'équivalence des diplômes, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, en 2007, Masu Garugamika, il a signé une circulaire qui montrait bien les équivalences, mais ça, c'était au plan administratif et non pas au plan académique. Voilà. Sur le plan académique, bien évidemment, il y a des différences entre les diplômes de l'ancien système et du nouveau système. Donc, le premier avantage, c'est la lisibilité. Il fallait rendre les diplômes congolais lisibles sur le plan international. Et donc, maintenant, aujourd'hui, vous avez votre diplôme du premier cycle de licence, vous allez n'importe où au monde, vous vous inscrivez au deuxième cycle sans problème. Vous avez votre diplôme de master en RDC, vous allez partout au monde, vous vous inscrivez au doctorat sans problème. Voilà, ça c'est le premier avantage d'ordre organisationnel. Aussi sur le plan académique, le premier cycle LMD, que ce soit le premier ou le deuxième ou le troisième cycle, maintenant, les cours sont décrits en termes de crédits. Vous voyez, des crédits. Les crédits, c'est la charge d'apprentissage pour chaque étudiant. Et quelle que soit la filière que vous allez poursuivre en RDC, vous aurez toujours le même nombre de crédits. Ce qui est différent de l'ancien système, on n'avait pas le même nombre d'heures. Celui qui faisait génie minier n'avait pas le même nombre d'heures d'études que celui qui étudiait, c'est pas moi, relations internationales, ou encore histoire, ou chimie, ou médecine, ainsi de suite. Les nombres d'heures dépendaient d'une filière à une autre. Maintenant, dans l'LMD, ce n'est plus le cas. Quelle que soit la filière que vous allez poursuivre, le nombre d'heures est le même. Nombre d'heures à l'auditoire au labo ou bien sur terrain. Au final, le nombre d'heures d'études est le même. Chaque promotion, chaque année d'études comporte 60 crédits. Donc 30 crédits par semestre, quelle que soit la filière, vous ferez 30 crédits par semestre, 60 crédits annuels. L'LMD aussi permet à l'étudiant de monter avec des échecs. Dans l'ancien système, on pouvait monter avec deux échecs légers ou un échec léger, mais on n'était pas obligé de venir combler cet échec-là. Mais dans le LMD, ce n'est plus le cas. Vous pouvez monter avec des crédits, des dettes à compenser, maximum 15 crédits, quelle que soit votre année d'études, maximum 15, mais vous êtes obligé venir vous rattraper, de repasser les examens dans ce cours-là jusqu'à ce que vous les aurez validés ou réussis. Vous voyez? Donc, l'avantage du LMD oblige l'étudiant à combler lui-même ses lacunes. Hein, on vous permet d'évoluer, oui, dans un cycle, bien évidemment. Hein, vous ne pouvez pas passer d'un cycle à un autre avec des cours non réussis, mais dans un cycle, vous pouvez passer d'une promotion à une autre avec des échecs, mais ces échecs ne doivent pas dépasser 15 crédits maximum. Voilà donc pour ce qui est les avantages, les limites. Bon, en RDC, bon, l'enseignement a ses défis, hein, mais c'est comme partout au monde. Chacun a ses difficultés. L'enseignement a ses défis. Donc, nous avons des gros défis de l'enseignement en RDC. Malheureusement, tous les défis sont seulement confondus dans les revendications salariales. C'est très malheureux. Dans un État responsable, il n'y a pas que les salaires, hein. Il y a les infrastructures, il y a les fonctionnements, il y a la logistique, il y a tout ce qu'il faut pour qu'un enseignement se passe dans de bonnes conditions. Malheureusement, en RDC, ça c'est ma perception, je constate que malheureusement, nous ne revendiquons que les salaires. Et lorsqu'un ministre croit qu'il a augmenté les salaires des enseignants, il croit qu'il a amélioré l'enseignement. Ce n'est pas le cas. L'enseignement, c'est un ensemble dont fait partie les salaires. Il faut vraiment quelqu'un qui aura une vision globale de l'enseignement pour pouvoir relever les différents défis. Les défis également sont du côté des enseignants. On continue à confondre les choses. On ne comprend pas les systèmes, on refuse parfois aussi de les comprendre. Bon, je comprends, hein, tout changement est difficile, hein, au premier moment. Donc, il y a des collègues, beaucoup de collègues, même s'ils ont étudié dans ce système à l'étranger, ils ont leur doctorat dans ce système à l'étranger, mais ils viennent ici, ils estiment que nous, Congolais, nous ne méritons pas, hein, d'étudier dans ce système. Et c'est très malheureux, mais il y a à la fois au niveau institutionnel, au niveau national, au niveau personnel, les étudiants n'ont pas de problème. Les étudiants sont soumis à un programme qu'ils vont suivre. Donc, ils n'ont pas de programme. Un étudiant ne peut pas me dire, il va comparer un système, le système PADEM et le système LMD. Non, il n'a pas à comparer. Lui, il vient à l'université pour étudier. Et à partir du moment où il choisit d'étudier telle filière, eh bien, il va respecter l'organisation de cette filière-là, tout ce qu'il faut pour obtenir un diplôme dans cette filière. C'est tout. Mais le problème se situe surtout au niveau des organisateurs et des enseignants. Les limites sont là, donc elles sont nombreuses. Mais j'estime que si au niveau national, nous avons un gouvernement qui accepte d'assumer ses responsabilités, ces limites peuvent être surmontées. Les parents, bien évidemment, ils sont plus sollicités dans l'LMD parce que l'LMD exige.
Voilà, professeur Bengaya Matiosi, vous venez de suivre l'intervention du professeur Amis Safari. Vous êtes ici au studio, pratiquement lors de la transmission de la matière. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la transmission du système PADEM, hein? Qu'est-ce qui est nouveau par rapport aux enseignements? Parce que les parents, bon, plusieurs parents se sont plaints comme quoi les étudiants, il y a des suiveurs, hein, qui suivent les autres, mais qui ne font absolument rien parce que celui qui est doué travaille à la place des autres. Pratiquement, qu'est-ce qui a changé? Professeur, vous avez la parole.
Oui, merci de tout cœur par rapport à cette préoccupation qui est d'une importance capitale parce que c'est la formation de nos enfants et donc la formation de ceux qui vont diriger ce pays demain après-demain. Alors j'aimerais commencer par le paradigme de base. En fait, le paradigme de base qui sous-tendait l'ancien modèle PADEM, c'était enseignement, recherche, service à la communauté. Alors aujourd'hui, avec le système LMD, nous avons toujours les trois bases du paradigme, mais l'ordre a changé. Le tout premier élément qui commence maintenant, c'est la recherche. Ensuite, l'enseignement et le service à la communauté. Pour souligner que le système LMD met un accent particulier sur la recherche. Et qui dit la recherche, il faut avoir des moyens pour effectuer cette recherche. Alors, pour répondre à la question, je reviendrai peut-être sur ce paradigme, pour répondre à la question, avec le système LMD, il faudrait enseigner autrement. Mais nous le savons, le changement n'est pas toujours chose facile pour l'homme. Et l'homme, très souvent, il est hostile au changement. Mais il faut qu'il y ait réellement ce changement dans la manière de pouvoir enseigner. L'enseignant, que ce soit le professeur ou les autres enseignants, doivent prendre beaucoup de temps dans la préparation. Prendre beaucoup de temps dans la recherche. Et si on a pris beaucoup de temps dans la préparation, on saura quels sont les travaux, quelles sont les activités que nous pouvons donner aux apprenants afin que les apprenants puissent en tirer profit. Et donc, par rapport à l'enseignement, c'est un grand travail. Parce que nous-mêmes, enseignants, nous sommes appelés à fournir beaucoup plus d'efforts pour faire travailler les autres, c'est-à-dire pour faire travailler les apprenants. Alors, si quelqu'un, il enseigne, et il se contente seulement d'avoir un syllabus, d'avoir des notes, et il vient, il commence à dicter, il commence à les présenter d'une manière ex cathedra, ça ne va pas aller. Mais il est indispensable de préparer et de savoir aujourd'hui quelle est l'activité que je vais donner pour qu'eux-mêmes découvrent même, parce qu'il y a des choses pour lesquelles, sans doute, nous sommes obligés toujours en enseignant de communiquer, de faire un exposé, mais qui n'est pas d'un seul sens, mais c'est en interaction. Ça signifie que je suis en train de communiquer la matière, mais il faudrait aussi que les apprenants y participent, que les apprenants aussi puissent interagir. Et ça, c'est un élément très capital, un élément important. Aussi, dès que l'enseignant arrive à faire participer les apprenants à leur formation, les apprenants maîtrisent mieux ce qu'ils sont en train d'apprendre. Ça, c'est d'un côté. Bon, maintenant, par rapport au défi, parlant toujours de l'enseignement, enseigner autrement, mais ça signifie que les enseignants doivent obtenir les moyens nécessaires, les outils nécessaires, les ressources nécessaires pour préparer leur matière. Par exemple, la connexion Internet devrait être accessible à tout le monde, à tous les sites universitaires. Ça, c'est de un. Des bibliothèques devraient être enrichies. Et heureusement qu'il y a maintenant des bibliothèques numériques et au niveau même du ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons cette bibliothèque nationale numérique, mais il faudrait qu'elle soit vraiment accessible à tout le monde pour faciliter la préparation. Parce que le temps de préparation doit être plus important que le temps même de communication de la matière.
Voilà, professeur, est-ce qu'il n'y a pas eu précipitation quelque part? Parce que c'est par là qu'il fallait commencer. Il faudrait qu'il y ait connexion, disponibilité de la connexion Internet. Il faudrait former les intervenants que vous êtes, les enseignants, parce que vous êtes professeur, peut-être vous avez eu à évoluer quelque part dans ce système, vous pouvez vous y adapter facilement. Mais il y a d'autres assistants qui interviennent, peut-être qui n'ont jamais étudié dans ce système. Est-ce que les gouvernements ne s'étaient pas précipités? Est-ce que c'est par là qu'il fallait commencer ou il faudrait commencer par la formation pour asseoir correctement ce système?
Oui, au fait, moi ce que je vais relever ici, c'est beaucoup plus la responsabilité des politiques, la responsabilité des gouvernants, les autorités politiques ont une grande responsabilité par rapport à la RDC, à notre pays. Pourquoi? Parce que les revenus que nous avons, le potentiel que nous avons, il est important. Mais au lieu que les deniers publics soient utilisés pour des causes nobles comme celle-là, généralement, c'est pour des voyages, c'est pour s'amuser, c'est pour aller dilapider vraiment une gabegie financière outre mesure. Et tout ça, moi, je les appelle avec une théorie, je viens d'ailleurs de publier un papier là-dessus, je les appelle des avantages injustes. Ce sont des avantages injustes. Alors, est-ce qu'il y a eu précipitation? Et qu'est-ce qu'il fallait attendre? Parce que demain, après-demain, vous pensez que le mode de gouvernance de ce pays changera directement? Moi, je ne sais pas. Voilà que, par exemple, ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa ne veulent même pas qu'il y ait respect des règles de jeu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la règle de jeu. Comme, je ne suis pas dans la politique, mais je suis dans la science. Mais pour que nous puissions évoluer et obtenir des ressources nécessaires, surtout pour les institutions publiques, il faut que la gestion de la chose publique soit rationnelle, que la gouvernance du pays soit acceptable, pour que les moyens, les ressources financières du pays soient utilisées pour booster l'enseignement, pour booster la recherche. Sans la recherche, on n'ira nulle part.
Une autre question avant que je ne passe la parole à mon confrère Junior. Est-ce que, oui prof, vous allez y revenir, vous avez toujours la parole. Prof, est-ce que ce que vous appelez, je crois, travaux en groupe, ça, projet tutoré, c'est ça. Alors, certains parents se plaignent comme quoi, bon, certains même lors de la défense ou soutenance, certains n'interviennent pas, on voit que quelques-uns intervenir et là on se rend compte que ce sont eux qui ont travaillé, les autres n'ont fait que suivre, mais ils n'ont pas participé à la réalisation du travail.
Okay. Ok, alors ce que je disais, est-ce que vraiment on s'est précipité? Moi je pense qu'il fallait y aller. Il fallait y aller parce que notre ancien système, PADEM, était déjà dépassé par rapport à d'autres pays, par rapport à la mobilité. Parce qu'avec le système LMD, ils prennent vraiment la mobilité. Vous quittez ce pays, vous allez ailleurs. On va vous comprendre, on saura quel est votre niveau. Maintenant, pour ce qui concerne les projets tutorés, au fait, les projets tutorés, parce que dans les systèmes LMD, on insiste sur la professionnalisation des apprenants. Il faudrait que les apprenants quittent les bancs de l'école étant capables de créer une activité, une AGR, activité génératrice de revenus, de créer une start-up, s'il y a innovation quelque part, de créer une micro-entreprise, une petite et moyenne entreprise. Mais comment y arriver? Il faut aussi cet esprit d'équipe. Parce que seul, c'est difficile. Deux valent mieux qu'un seul. Et donc, quand ils sont à trois, à quatre, à cinq, ils doivent travailler ensemble. Mais vous le savez, même dans nos familles, tous les enfants n'ont pas toujours la même capacité. Donc, il est ceux qui auront plus de capacités que d'autres, mais c'est aussi aux parents d'avertir leurs enfants lorsqu'il y a des travaux pareils que leurs enfants participent. Ce sont les tuteurs aussi. Les tuteurs, c'est-à-dire les enseignants qui les accompagnent, qui doivent aussi veiller à avoir des séances avec eux, avec les groupes, pour qu'ils posent des questions à tout un chacun au fur et à mesure qu'ils sont en train d'évoluer et qu'ils voient est-ce que tout le monde est en train de participer. Et ceux qui sont timides, ceux qui ne participent pas, qu'on les encourage pour pouvoir participer. Donc c'est ça aussi, enseigner autrement, étudier autrement aussi. Parce que le travail en équipe est toujours très important ici à la radio. Si vous êtes seul, est-ce que vous allez réussir? Donc, nous sommes toujours appelés à travailler en équipe d'une manière ou d'une autre.
Ingénieur, rapidement.
Oui, merci professeur pour les éclaircissements. Je voudrais savoir, est-ce que celui qui a fini dans l'ancien système, il a la possibilité d'enseigner dans le nouveau système? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est celle de savoir quelle différence ou nuance existait-il entre le master de l'ancien système et celui du nouveau système? Puisque ce qu'on constate, c'est que pour le nouveau système, l'écoute est très moins chère par rapport au master de l'ancien système, ce qui laisse croire qu'il y a une certaine différence.
Ah oui, oui, je pense que vous voulez parler du master complémentaire.
Tout à fait.
Oui, comme j'ai eu à coordonner le programme du master complémentaire à l'ISC Bukavu, donc je puis mieux en parler. Par rapport à ce système LMD, au système LMD, donc, il existe d'abord des passerelles. J'aimerais parler des passerelles parce qu'il est des auditeurs qui ont fait l'ancien système et peut-être qui sont des gradués de l'ancien système, des licenciés de l'ancien système. Et ils peuvent se poser des questions. Comment nous pouvons réintégrer aussi le système LMD? Il existe des passerelles qui leur facilitent la tâche pour qu'on leur dise vous pouvez entrer à tel niveau. Et dès que vous êtes à ce niveau, soit vous aurez des compléments et ça vous permet d'évoluer avec les autres. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, un enseignant qui a étudié dans l'ancien système, oui, peut enseigner dans le système LMD, mais il lui faut une formation. Et il y a eu une série de formations avec le ministère à l'époque du ministre Zangi, une série de formations que nous avons eu à subir aussi pour que nous puissions entrer dans ce nouveau système. Mais lorsqu'on forme, est-ce que tout le monde suit? Lorsqu'on forme, est-ce que tout le monde est attentif? Et c'est ça le grand problème qui se pose. Mais ceux qui ont capitalisé ce moment de formation, ils ont déjà un avantage. Alors, au sujet du master, en fait, le master complémentaire, c'était en réalité parce que dans l'ancien système PADEM, il est licencié. Il a fait 2 cycles. Mais avec ces 2 cycles, il ne peut pas aller vers la thèse. Mais c'était une brèche. C'était juste une piste qui a été ouverte par le ministère afin que ceux qui enseignent, qui sont des chefs de travaux, des assistants, soient capables d'aller vers la thèse. Comme ils vont directement vers la thèse, avec le master complémentaire, bien que c'était pour une année, mais la matière était intense et donc comprenait une bonne part de la matière des M1 et des M2 du système LMD. Et comme c'était un programme spécial, c'était tout à fait normal que les coûts soient un peu plus élevés. Mais quand vous comparez 2 années de Master 1, Master 2, avec Master complémentaire une seule année, on paye une fois, à ce moment-là, la différence ne sera plus importante.
Ah, donc c'est là que réside la différence.
Oui, oui, oui.
Et celui qui a fini directement un Master pour dans le nouveau système peut faire directement le doctorat.
Oui, oui, au fait, nous venons de suivre cet élément. Et jusqu'à ce jour, le ministère ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Et le document de base qui nous régit, pour le moment, nous avons un guide de formation du LMD. Et ce guide de formation du LMD a prévu 2 cas de figure. Ça signifie quand nos apprenants vont terminer le master, il faudrait qu'on voit est-ce que réellement leur niveau leur permettra d'aller directement vers la thèse. Ça va se décider bientôt. Et si ça leur permet d'aller vers la thèse, ils iront vers la thèse.
Mais ils sont maculés par les temps professeurs.
Oui, mais ça ne permet pas. Ils doivent faire encore 1 ou 2 années du DEA pour aller vers la thèse. C'est prévu dans ce document que je viens de citer.
En conclusion,
oui,
si vous exprimez un peu en swahili, parce que le bon nombre de parents vous écoutent en ce même moment.
Oui, oui. Et en conclusion, nous allons l'exprimer un peu en kiswahili. Nous allons essayer. Avec kunakuwa i namna ya mpya ya kuweza kufundisha watoto na kuweza kujifunza ni system LMD. Na katika hii system LMD, mwanafunzi anakuwa na kazi kabambi ya kufanya. Haiko mwalimu tu ndio anatumika, lakini mwanafunzi naye inabidi aweze kutumika. Na mwalimu anapaswa tumika davantage, anatumika mingi kwa sababu inabidi atayarishe nini njo ataletea watoto, juu wale watoto, wale wanafunzi, waweze nao kujisaidia kwa kuweza kutambua matière yenye wanaweza kujifunza. Waipate ndani ya vitabu, ndani ya internet, lakini inabidi pia pourquoi na Vifa, Vifa Asawa Connection, Vifa Asawa Bibliothèque Nzuri, Vifa Asawa ma infrastructure za Mzuri, ma nyumba za Mzuri, ma auditoire za Mzuri, ile yote inasaidia juu kazi iweze kufanyika vizuri. Wakuwe pia na maordinateur, waweze kuwa na accessibility kule maordinateur. Inasaidia juu LMD iendelee vizuri. Lakini kitu ya kabambi ya LMD inapenda sama wanafunzi anamaliza masomo aweze kuanza kazi fulani. Asikuwe tu wa kuandika j'ai l'honneur. Siku tu tunajua j'ai l'honneur, lakini aweze kuwa kapabu kufanya kazi fulani. Na ile njo ma projet titore mingi wanafanya ku premier cycle accent.
Merci prof. Nous allons retourner du côté de la technique pour suivre la dernière partie de l'intervention du professeur Amis Safari, qui est revenu sur les difficultés, sur les plaintes de parents et qui a formulé un certain nombre de recommandations. Et donc, nous disions que le professeur Amis Safari a formulé un certain nombre de recommandations. Il est revenu aussi sur les différentes plaintes de parents. Nous allons l'écouter.
Les parents qui disent que le système est resté plus théorique, je serais d'accord à 50% et non d'accord à d'autres 50%. Tout cela, comme je disais, ce sont les limites liées au système. Beaucoup de professeurs continuent à confondre l'ancien système et le nouveau système. On leur explique comment évaluer dans le nouveau système, mais ils continuent à faire sourde oreille. On leur explique comment enseigner dans le nouveau système, ils continuent avec les réflexes de l'ancien système. On leur dit voilà quoi, comment gérer même les comités de gestion, comment on gère les LMD. Mais on continue à faire la sourde oreille, ben finalement, vous voyez. Donc c'est vraiment. Mais alors au niveau national, n'en parlons même pas au niveau national. Lorsque vous devez entrer dans un service qui est censé vous donner des informations précises et que ce service ignore lui-même les réflexes qu'il faut avoir, donc le système, le problème est national. Mais la solution, c'est pas l'ancien système. Non, l'ancien système avait beaucoup de limites. Il faut le reconnaître et puis maintenant nous n'y sommes plus. Voilà, il faut accepter d'avancer. Maintenant, vous dites le système favoriserait les étudiants faibles à les demeurer davantage. Mais alors l'ancien système ne les favorisait pas? Comment vous pouvez dire que c'est le nouveau système qui favorise les étudiants faibles? Non. Donc celui qui est faible, il est faible. L'étudiant qui est faible, il est faible. Mais s'il veut s'améliorer, il peut aussi s'améliorer. D'autant plus que les nouveaux systèmes vous permettent de vous cultiver en dehors de l'auditoire, hein, parce que vous avez ce qu'on appelle les travaux personnels de l'étudiant, qui sont comptabilisés dans le crédit. Vous voyez, les travaux personnels. Hein, un crédit en RDC dure à une charge horaire de 25 heures. Dans les 25 heures, vous avez 15 heures de présentiel, c'est dans ces 15 heures que vous avez les CMI, les TD et les TP, mais vous avez en plus encore 10 heures de travaux personnels de l'étudiant. Donc, c'est à l'étudiant de voir comment rentabiliser ces 10 heures de travaux personnels de l'étudiant. Personne ne va les surveiller, personne ne va les contraindre, mais c'est à lui de décider quelles sont ses priorités. Maintenant, je le répète, l'étudiant qui veut rester faible, il va rester faible. Et c'est malheureux. Pourquoi aller à l'université et refuser de travailler? Qu'est-ce que vous allez faire à l'université? Vous pouvez choisir de faire autre chose dans la vie au lieu de perdre votre temps. Parce que de toute manière, demain, une fois que vous allez revendiquer tel diplôme, il faudra prouver que vous avez les compétences. Des compétences qui sont liées à ces diplômes-là. Vous voyez? Donc, j'estime que c'est un problème plus individuel que institutionnel. Bah, recommandation aux parents, aux étudiants. Bon, les parents, les étudiants, on peut choisir de se plaindre, mais nous sommes dans un monde où les plus forts vont écraser les plus faibles. Donc, c'est à vous de voir comment vous retrouver dans ce monde, à vous de voir quels sont les mécanismes de survie que vous allez développer pour ne pas être écrasé voyez. Et donc, passez votre temps à vous plaindre, cela ne servira à rien. Adaptez-vous au système. Le système est tel quel. Lorsque vous envoyez votre enfant à l'université aujourd'hui, rassurez-vous qu'il a un Android. Maintenant, si cet enfant, au lieu d'utiliser le téléphone ou l'ordinateur pour s'améliorer au travail, mais il va l'utiliser dans des choses qui ne sont pas correctes, ben c'est lui qui fait son choix. Voilà, c'est lui qui a fait son choix, c'est lui qui fait le choix de se détruire, et c'est très malheureux pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc, c'est chacun qui choisit sa filière et de s'y mettre de plein pied. Voilà, c'est tout ce que je peux donner comme recommandation. Mais passer notre temps à nous dire « Oh non, maintenant !» Bon, à ces plaintes-là, je ne sais pas donner solution, malheureusement.
Professeur, vous avez suivi religieusement la conclusion de votre camarade, votre collègue professeur. En guise des conclusions et de petites recommandations pour terminer l'émission.
Ok, merci. Je voudrais relever quand même un point important. C'est la manière dont les apprenants sont recrutés dans des universités, dans des instituts supérieurs. Oui, cette manière laisse à désirer. Laisse à désirer pourquoi ? Il y a une course pour avoir beaucoup plus d'effectifs. Parce que plus on a d'effectifs, plus aussi on aura des moyens financiers. Ça ne devrait pas être ainsi. On devrait réellement suivre les textes, suivre des règles. Quelles disent les règles ? Et qu'il faut avoir 60%. Obtenir les diplômes d'État avec 60%. Et si on n'a pas obtenu le 60%, alors il faut qu'on passe par un test. Que ça soit un véritable test, que ça ne soit pas une formalité. Ça, c'est d'abord au départ. Ensuite, chaque étudiant est appelé à prendre sa vie au sérieux. Lorsqu'on étudie, on étudie pour la vie. On n'étudie pas seulement pour passer d'une promotion à une autre, d'un semestre à un autre semestre, mais c'est pour la vie. Et donc, ils doivent participer. Et à nous, les enseignants, il est indispensable que nous puissions amener les étudiants à travailler, qu'on prenne assez de temps pour être dans l'auditoire. Même si on n'enseigne pas, mais on donne des travaux, on se rassure que chacun est en train de travailler.
Merci,
et
professeur.
Ça produit des résultats.
Merci, professeur. Également, merci d'avoir accepté notre invitation, bien que nous vous ayons pris à pied levé, mais quand même, vous avez accepté de vous déplacer jusqu'ici à la radio KVFM.
Oui, c'est à moi aussi de vous remercier et souhaiter longue vie à cette émission et à cette radio, à ce média.
Merci, Junior Wouti.
Merci beaucoup, Elias Munganga. Et nous pensons que prochainement, nous serons encore avec les professeurs.
Fin de l'émission Jeunesse au couloir de séjour. Elias Munganga, Junior Wouti et Denis Kandegué, du côté de la cabine technique, étaient là pour vous la produire. Merci et bye bye.